Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Il est des lieux qui, par leur simple atmosphère, invitent à prendre conscience que la vie est une mystérieuse aventure. Notre-Dame de Garaison en est un. Situé à 20 km au sud de Lannemezan, dans les départements des Hautes-Pyrénées, ce sanctuaire marial, inconnu parfois même des habitants ici, est le plus ancien des lieux d'apparition mariale reconnus en France. Oui, vous avez bien entendu, le plus ancien des lieux d'apparition mariale reconnus en France. Ici, la Vierge Marie est apparue à une bergère en 1515, anglaise de Sagazan, un lieu de grâce cachée qui ressemble quelque peu à un village en Judée. Cette émission Vivante Église, ce matin donc dernière de notre série de l'Avent, depuis Notre-Dame de Garaison, donc ce sanctuaire, ce sanctuaire donc presque, enfin méconnu en tout cas, si pas inconnu de certains, mais en tout cas méconnu, trop méconnu, et c'est le Père Pascal Garçon qui nous accueille, Père donc de Sainte-Croix, recteur de ce sanctuaire de Notre-Dame de Garaison. Bonjour.
Bonjour Emmanuel, et bonne fête, puisque je crois que ce 25 décembre c'est aussi votre fête, puisque Emmanuel, Dieu avec nous, c'est à Noël qu'on le célèbre, donc bonne fête et joyeux Noël à tous nos auditeurs.
Voilà, merci beaucoup. En tout cas, on est ravis d'être avec vous en ce jour qui est donc peut-être la deuxième plus grande fête de l'année pour les chrétiens, jour de Noël. Je voulais donc peut-être, alors on va essayer de se mettre à la place des auditeurs qui n'ont pas eu les deux premières. On va essayer de ne pas être trop long. On a dit déjà pas mal de choses sur Notre-Dame de Garaison, le fait que c'était un lieu caché, que c'était un lieu désert. Est-ce que vous pourriez peut-être, pour finir, nous dire, on a dit à plusieurs reprises dans cette émission qu'il y avait des gens, même ici, qui ne connaissaient pas, qui sont des villageois. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot là-dessus? Ça vous a surpris quand vous êtes arrivé?
Non, ça ne m'a pas surpris parce que j'aime beaucoup Charles de Foucault. J'ai beaucoup étudié ce qu'il a écrit quand il était chez les Clarisses à Nazareth. Et il avait cette méditation sur la présence de la Sainte Famille et la présence de Jésus, le Fils de Dieu, à Nazareth. Et comme il disait, une simple cloison pouvait séparer le Fils de Dieu du plus grand des pécheurs. Donc on peut très bien avoir un lieu de sainteté à côté, à portée de main, à côté de nous, sans le connaître, parce qu'il y a aussi un mystère de révélation. Donc pour qu'il y ait révélation, il faut qu'il y ait aussi une partie cachée. Et donc, ce n'est pas étonnant qu'on peut vivre à côté sans se rendre compte de la grâce qui demeure à portée de main.
Vous citez aussi l'exemple de Jacob dans le livre de la Genèse à ce
voilà,
sujet.
Voilà, Jacob qui fait une marche, un petit peu comme Marie et Joseph ont fait leur marche vers Bethléem. Jacob qui est fatigué, qui s'endort, qui a pris une pierre pour, comme oreiller. Et pendant son sommeil, il voit un rêve, il voit une échelle qui se dresse vers le ciel et des anges qui montent et qui descendent, un petit peu comme nos anges sont à Bethléem, là qu'ils chantaient la gloire de Dieu. Et à son réveil, il dit cette phrase que j'aime beaucoup, « Vraiment, Dieu était en ce lieu et je ne le savais pas. » Combien chacun d'entre nous on pourrait redire cette phrase, « Dieu était en ce lieu, Dieu était dans ma maison, Dieu était chez moi, Dieu était dans ma vie et je ne le savais pas. » Et la grâce de Noël, c'est peut-être justement ce temps où cette présence se manifeste à nous. Dieu était dans ma vie, je ne le savais pas, et aujourd'hui je le découvre.
Voilà, en tout cas, un lieu qui peut aider à découvrir cette présence, c'est Notre-Dame de Garaison. Vous allez être ouvert là les prochains jours, si par hasard les auditeurs veulent venir ce jour ou les jours qui suivent, il y aura quelqu'un pour les accueillir?
Ce jour de Noël, oui. Les prochains jours, normalement, nous avons notre retraite communautaire, donc nous allons prendre 4 jours de prière ensemble. Il faudra attendre samedi pour... Enfin, le sanctuaire sera ouvert, mais je ne pourrai pas accueillir nos auditeurs. Il faudra qu'ils attendent samedi et dimanche prochain.
En tout cas, ça vaut le coup de venir parce que vous faites des visites de ce sanctuaire un peu à l'image de ces différentes émissions qui aident à rentrer... qui ne sont pas que des visites culturelles, qui aident à rentrer dans le mystère de la foi. Alors, j'aimerais qu'on évoque dans cette dernière émission un miracle qui a eu lieu lors de la troisième apparition. Donc, pour rappel, la Vierge donc, est apparue 3 fois à Anglaise de Sagazan, lui demandant la première comme la deuxième fois que soit construite une chapelle. Son père va au village de Montléon pour essayer de se faire entendre des habitants non sans difficulté puisqu'il se fait rabrouer. Et la Vierge insiste. Et lors de la troisième apparition, il est dit, et je vous laisser continuer, que Anglaise y est allée cette fois avec d'autres et qu'elle a été la seule à voir la Vierge, mais que les autres l'auraient entendue et qu'il y a eu un miracle. On va commencer peut-être par le miracle qui la concerne, elle.
Voilà, donc c'est un miracle du pain, puisque, comme on le disait dans les émissions précédentes, la terre du Manioac, la terre de Garaison, est une terre très pauvre, en particulier pour la culture du blé. C'est trop humide. Et le pain qui était produit à l'époque d'Anglaise, à l'époque des apparitions, était un pain, on va dire, un pain noir, un pain très grossier, un pain très dur, un pain de pauvre. Et on peut imaginer Anglaise qui, chaque soir ou chaque matin, faisait sa prière avec ses parents et ses frères et sœurs, en demandant en particulier « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour » et en se demandant ce que le bon Dieu faisait, puisque le pain qu'elle mangeait ne la nourrissait pas. Lors de la troisième apparition, comme vous l'avez souligné, il y a des habitants, il y a la famille, il y a des proches, des fermes et du hameau qui viennent parce que, là aussi, c'est un signe que la parole d'Anglaise n'est pas une parole d'enfant, une parole de fable ou de légende. On prend au sérieux cette petite enfant, on prend au sérieux son message et on vient. On vient pour voir et on ne va rien voir. Mais comme vous l'avez dit, curieusement, les gens vont entendre.
Enfin, on vient par curiosité, scepticisme aussi peut-être à l'époque. Ah ça n'est pas dit. Ça, c'est...
Je pense que...
Bah, ça devait être mêlé, évidemment.
Tout
ça.
À fait. Enfin, ceux qui n'y croyaient pas du tout n'allaient pas se déplacer jusque dans la lande pour ne rien voir. Ceux qui sont venus, je crois, étaient déjà en marche, un petit peu comme nos rois mages. Ils avaient déjà une sorte d'étoile qui brillait au fond de leur cœur. C'était par curiosité et en même temps, j'allais dire, et si c'était vrai? Et ils veulent un petit peu avoir des éléments de réponse, et ils entourent Anglaise. Alors, pour reprendre le miracle des pains, la Vierge Marie indique à Anglaise de sortir le pain qu'elle avait dans sa panetière, dans sa sacoche, ou on pourrait dire dans sa bandoulière, puisque vous savez que bandoulière, ça vient justement de la lande de la maison. Les bandouliers, c'était les brigands. Et donc, on a toujours un sac en bandoulière. Et bien voilà. Ça... Et donc, Anglaise obéit. Et au moment où elle sort le pain noir qu'elle avait pris le matin pour se nourrir, d'un seul coup, elle découvre un pain blanc, un pain extraordinaire, un pain comme elle n'en a jamais vu ni goûté. On pourrait dire aujourd'hui, merci aux boulangers, aux bons boulangers qui nous font le pain du matin de Noël, un pain brioché, un pain extraordinaire. Et Anglaise ne comprend pas d'où vient ce pain. Et Marie invite tous ceux qui étaient présents à rentrer chez eux et à ouvrir leur huche à pain. Et ils découvrent eux-mêmes qu'à la place du pain noir, du pain poussiéreux, du pain qu'ils ne nourrissaient pas, ils ont tous du bon pain, un pain comme ils n'en ont jamais vu. On pourrait presque dire, nous, un pain descendu du ciel, un pain des anges.
C'est un miracle aussi, enfin, attesté par quoi ? Par toujours le récit de l'apparition dont on a eu trace.
Et par la première procession, puisque le curé qui ne voulait pas entendre parler des apparitions et surtout de la construction d'une église, les consuls, tout ce monde va venir apporter les pains pour remercier Dieu et pour attester. Ça va être vraiment, cette première procession va être le début du pèlerinage de Garaison. On vient avec les pains, on vient pour remercier Dieu et on va planter une croix qui va être la prise de possession du Christ Jésus de cette terre.
Alors, le lien avec Noël, pour ceux qui sont un peu calés, peut paraître un peu évident, puisque Bethléem, je vous laisse traduire.
Bethléem, on peut le traduire par la maison du pain.
Et donc, que dirait le pasteur que vous êtes ou quel lien fait-il entre ce miracle et la manière dont il peut éclairer ce que nous vivons en ce jour ?
D'abord, il y a cette présence des pauvres, des petits, des anawim, comme on dit dans la Bible, de ceux auxquels on ne pense pas. Dans le récit que nous avons entendu cette nuit, dans la nuit de la Nativité, on parle de ces bergers. Et au temps de Jésus, les bergers étaient très mal considérés parce qu'ils ne pratiquaient pas comme les pharisiens pouvaient le faire. Ils ne pouvaient pas se rendre à la synagogue le jour du sabbat parce qu'ils avaient leurs troupeaux et ils étaient éloignés. Or, à Garaison, c'est un petit peu ces petites gens, ces gens auxquels on ne pense pas, qui vont être les premiers témoins de l'apparition de Garaison, comme les bergers pouvaient l'être à Bethléem. C'est eux qui vont venir les premiers à la grotte.
Puisque les parents d'Anglaise étaient assez pauvres, vous l'avez dit à plusieurs reprises.
Mais oui. Même si Anglaise de Sagazan, on pourrait croire que c'est un titre de noblesse, non, c'était la terre qu'ils travaillaient, dont ils étaient originaires, ce n'était absolument pas une famille noble.
Donc la première chose, premier parallèle que vous faites, c'est celui-là.
Voilà. C'est, et cette exultation que Jésus aura plus tard, sous l'action d'Esprit, « Père, je te bénis d'avoir caché cela aux sages et aux savants et de l'avoir révélé aux tout-petits. » Tout-petit, c'est anglaise, mais c'est aussi les habitants qui viennent et qui sont, comme les bergers, ils sont émerveillés de ce qu'ils voient.
Alors, ce Messie qui naît dans la crèche, pour ceux qui sont, on va dire, croyants, pratiquants, c'est une évidence. Est-ce qu'on peut remettre ça aussi en perspective, peut-être avec l'attente d'Israël? Ils attendaient-ils un Messie qui les nourrisse, si je puis dire? Et si oui,
Mais pour Israël, il y a toujours cette expérience fondamentale de la traversée du désert pendant 40 ans. 40 ans, c'est quand même plus qu'une génération, c'est un temps très longtemps. Et vous vous souvenez, et peut-être que nos auditeurs se souviennent, que justement, à une époque, à un temps où on n'a plus rien à manger, le peuple se tourne vers Dieu et Dieu envoie la manne. Manne où ? Qu'est-ce que c'est ? Cette farine que l'on va récolter chaque matin et qui va nourrir le peuple. Et donc, il y avait cette expérience que Dieu n'est pas insensible aux souffrances de son peuple. Dieu va y répondre, et en particulier par le don de la manne qui va durer jusqu'au moment où le peuple d'Israël va rentrer sur la Terre Sainte et va pouvoir profiter des fruits de la Terre Sainte. Là, c'est un petit peu pareil. Ce peuple qui est pauvre, ce peuple de garnison qui est pauvre, qui n'a pas de grandes ressources, qui n'a pas une grande foi chrétienne, eh bien, d'un seul coup, il est nourri par Marie, il est nourri par Dieu, il vient prendre des forces au moment où il en avait besoin pour continuer sa route.
Quand je dis en fait quelle était l'attente d'Israël, c'est aussi peut-être pour nous aider à prendre conscience du miracle quelque part qu'a été la naissance de Jésus, l'attente du Messie. Redites-nous ce qu'attendait Israël en fait, et ce qu'attendent en fait encore peut-être.
En Israël, tout le monde attendait le Messie, tout le monde. Que ce soit les disciples de Saint Jean-Baptiste, que ce soit les Esséniens, ceux qui justement ne voulaient pas se mêler aux pécheurs et se retiraient dans le désert au-dessus de la mer Morte, que ce soit les pharisiens, que ce soit les Zélotes qui attendaient un Messie valeureux, un Messie guerrier, il y avait bien la prophétie d'Isaïe disant que la jeune femme, une vierge, enfanterait un fils premier-né. D'ailleurs, sur le haut du retable, on a Isaïe qui porte cette inscription-là. Mais on ne comprenait pas toutes les implications de cela. Bien sûr, l'on dit que toutes les jeunes filles en Israël rêvaient d'être la mère du Messie. Mais autant l'attente était précise, autant la forme qu'allait prendre cette venue du Messie, elle était très diverse. Et c'est pour cela que, autant Jésus sera bien accueilli par certains, autant il sera rejeté par d'autres.
Pour finir chacune de ces parties, avant qu'on fasse une première pause, je vous propose de nous aider à peut-être à faire atterrir votre propos ou à le personnaliser. Moi qui écoute la radio ce matin, qui est le jour de la fête de Noël, redites-moi si je n'en suis pas persuadé, si je ne l'ai pas complètement compris, pourquoi c'est une grande et bonne nouvelle et ça n'est pas que le récit d'une histoire.
Alors, si vous prenez votre petit déjeuner à l'heure de l'émission, je crois que je vous inviterai bien à regarder le pain que vous avez sur votre table ou la tartine. Et puis, pour vous dire, mais comment justement cet élément de nourriture qui est fait, comme on le dit dans la liturgie de la messe, à la fois des produits de la terre et du travail des hommes, puisqu'on ne trouve pas du pain naturellement, il faut qu'il y ait le travail des hommes, comment ce pain peut d'un seul coup être porteur de multiples significations? Quand on partage son pain, quand on donne son pain, quand on offre du pain, quand on rompt le pain, eh bien, il y a toute cette relation. D'ailleurs, on va dire que nous sommes compagnons, nous avons partagé ensemble le pain. Il y a tout un tissu de relations. Et même si je suis tout seul en train de prendre mon petit déjeuner, eh bien, en contemplant ce pain tout simple sur ma table, je peux m'ouvrir un monde de relations beaucoup plus grand. Et pour le croyant, il y a cette phrase de ce Jésus, pain de vie, déposé dans une crèche, dans une mangeoire, on va le manger, hein, et qui dira lui-même « Je suis le pain vivant », eh bien, ça peut être une première prière du matin, de dire « Seigneur, je te bénis pour ce pain et pour ta présence et la présence de mes frères à travers ce pain ».
On va faire une première pause musicale et on vous retrouve tout de suite après pour continuer à parler du mystère de Noël à la lumière des apparitions de Notre-Dame de Garnison. Mmh.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Cette émission Vivante Église ce matin, en ce jour de Noël, enregistrée depuis Notre-Dame de Garaison, donc ce sanctuaire, vous commencez à le savoir, dans les Hautes-Pyrénées, premier lieu d'apparition mariale, en tout cas parmi les apparitions mariales reconnues en France en 1515 à une petite bergère anglaise de Sagazan, pour ceux qui ne le sauraient toujours pas. Et nous sommes toujours avec le père Pascal Garçon, recteur de ce sanctuaire. Si on continue le récit des apparitions, en fait, la fin du récit des apparitions, la Vierge adresse une demande à toutes les personnes présentes, et pas seulement à Anglaise de Sagazan, leur indiquant la nécessité qu'ils se souvinssent toujours de rendre grâce à Dieu de sa miséricorde et des consolations qu'il leur donnait, dit le récit, et le récit en l'occurrence, je ne l'ai toujours pas dit, c'est le récit des apparitions publié par le chapelain Étienne Molinier en 1530. Dans son livre Le Lys du Val, et c'est un peu le récit qui fait foi. Pourquoi vous teniez à souligner cela? C'est une manière de presque pour l'apparition de se conclure, non?
Oui, puis de nous ouvrir notre mission à nous, parce que le fait que Marie nous invite à dire merci. Je crois que on a parlé pendant ces émissions de se mettre à l'école de la Vierge Marie. Elle nous permet de nous situer devant Dieu d'abord qui est un Père et qui va entretenir une relation avec nous, une relation respectueuse et une relation de don. Et Marie qui nous invite à rendre grâce, à dire merci, eh bien, elle nous invite à entrer dans son Magnificat. Vous savez, cette hymne de joie que Marie entonne lors de la visitation, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur ». Marie, en remerciant Dieu, elle redit son identité de créature aimée de Dieu, elle redit sa mission d'être la mère du Sauveur, Et son merci, son action de grâce, lui permet d'accomplir sa mission. Mais je crois.
C'est-à-dire
d'être mère et de porter, de suivre Jésus dans le pèlerinage de la foi.
Parce que là, elle avait accepté de.
Elle l'avait accepté.
Cette naissance, miraculeuse et divine avant de rendre grâce.
C'est... Oui, mais justement, elle donc bon. Saint Luc nous donne cet espace de temps, puisque Marie se rend de Nazareth à Ein Karim, pas très loin de Jérusalem, auprès de sa cousine Élisabeth. Mais ce qui est dit dans le temps, c'est ce qui naît du cœur de Marie dès le premier instant, comme il naît aussi aujourd'hui. Marie, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle ne cesse de rendre grâce à Dieu. Elle ne cesse de comprendre que tout ce qu'elle est, elle ne le doit qu'à Dieu.
Et c'est-à-dire que la gratitude, alors c'est un mot à la mode, je cherchais en préparant l'émission souvenir de quelques publications sur ce sujet grand public, en tout cas j'ai souvenir d'un livre du père Pascalide, donc prêtre connu de la communauté de l'Emmanuel, qui a des responsabilités à Rome, qui a écrit un livre récemment sur la gratitude. On parle souvent de la positive attitude ou même de l'éducation, vous qui êtes ici, l'éducation positive. Pour le croyant, est-ce que c'est la première posture, en fait, la gratitude est-ce qu'elle est fondamentale et pourquoi, en fait, elle est fondamentale?
Je crois qu'elle est fondamentale, là encore, pour notre propre identité, de comprendre que ce que l'on est, on le doit, et cela nous vient d'un autre que nous appelons Dieu. Vraiment, je crois que la gratitude, c'est ce qui nous met en vérité face à Dieu. De voir qu'on n'est rien par nous-mêmes, et que Dieu a voulu que nous soyons, et que nous soyons un face-à-face avec lui. Et là, on ne peut dire que merci. Pour moi, vous parliez de Pascalide, j'ai une autre référence d'une phrase qui m'a beaucoup marqué quand le pape Jean-Paul II l'a prononcée. Un monde sans merci est un monde qui devient inhumain, est un monde qui se tourne contre l'homme. Alors, il jouait sur le jeu de mots, un monde sans merci quand on ne dit pas merci, et on se souvient de toutes les histoires quand on est petit, dit merci à la dame, etc. Mais un monde sans merci où on ne voit pas ce que l'on doit aux autres, où on ne voit pas que les autres ne font pas des choses, mais qu'ils sont en interaction avec nous. Quand je considère les autres comme des objets, quand je ne leur dis pas merci, ou même bonjour, et Dieu sait si je souffre, moi, de ne pas voir les gens se dire bonjour, de se considérer comme des objets, eh bien, ce monde-là, petit à petit, il va être un monde inhumain, un monde où on considère les autres comme des choses, comme du jetable, dirait le pape François, et un monde qui ne sera pas le monde que veut Dieu pour son humanité. Donc, dire merci, rendre grâce, accepter que l'autre m'apporte, eh bien, je crois que c'est le début d'une grande sagesse.
Alors, je ne sais pas si c'est la citation de Jean-Paul II, mais dans les documents que vous m'avez donnés, vous allez jusqu'à dire, vous me direz si c'est vous, Jean-Paul II, qu'un monde sans merci serait peut-être le début de la porte ouverte vers les totalitarismes qu'on a pu connaître au XXe siècle. Alors, est-ce que le pas n'est pas un peu trop vite franchi, et comment vous franchissez ce pas ?
Il ne se franchit pas d'un seul coup, mais c'est un chemin, un peu comme le mensonge. Plus on ment, plus on ne se rend plus compte qu'on s'éloigne de la vérité. Je crois que quand on considère que nous n'avons rien à devoir à personne, quand on considère que les autres n'ont rien à voir avec ma propre vie, quand on n'a plus de relation avec eux, petit à petit, on construit un monde où il y aura les forts qui ne dépendront de personne. Et là, on va retrouver des horreurs petit à petit. Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais cela peut être dangereux pour l'avenir de notre société.
Est-ce que vous diriez que la gratitude, c'est quelque part, en fait, le premier fruit de l'authentique rencontre de Dieu ? Parce que tout d'un coup, on rencontre quelqu'un de plus grand que nous, quelqu'un qui est l'auteur de la vie, quelqu'un qui est la source de l'amour, ou est-ce que la gratitude, ça peut mettre en route quelque part vers la rencontre de Dieu aussi ?
Moi, je crois que c'est ce que vous avez dit, c'est l'authentique signe de notre rencontre avec Dieu, et j'ajouterais, c'est l'authentique signe de notre rencontre avec les autres, puisque vous savez que pour les chrétiens, c'est essentiel. C'est Saint Jean qui nous dit, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas, si tu ne vois pas ton frère que tu vois. Et dire merci, parfois même dire merci à des inconnus, ou dire merci à des personnes aux côtés de qui on vit, on travaille, peut changer beaucoup de choses. Je me souviens, en arrivant ici, je portais des cartons de mon déménagement, et il y avait quelqu'un qui travaillait dans le jardin, et à la rigueur, j'aurais pu dire, bon, bah, je suis directeur, je n'ai rien à voir avec cette personne. J'ai déposé quand même mes cartons, j'ai été le saluer, nous avons parlé 2 minutes, et je suis reparti avec mes cartons. Lui a repris son béret et a continué son ouvrage. Et 3 mois après, nous nous sommes retrouvés à une petite fête du sanctuaire. Il m'a dit, mon père, je vous remercie, parce que vous êtes le premier prêtre à être venu me saluer. Vous voyez, je crois que quand on dit merci à quelqu'un, quand on ouvre les yeux, quand on dit des fois, une maman va dire qu'elle fait la cuisine tous les jours et que personne ne la remercie, personne ne se rend compte de ce qu'elle fait, mais je crois que comme un mari dit à sa femme « je t'aime », de dire merci à ses proches peut changer beaucoup de choses dans notre monde.
Voilà, en tout cas, peut-être qu'on peut se dire aussi que tous les gens qui essayent de développer des positives attitudes, des attitudes de gratitude, etc., sont aussi, ça peut être une manière de cheminer vers Dieu. En tout cas, bon, on peut l'espérer. Pour finir, vous avez parlé de Marie comme, c'est la grande tradition de l'Église, comme l'exemple de gratitude par excellence. Alors, vous n'étiez pas à Bethléem et à la crèche, donc peut-être que c'est de la théologie ou de la spiritualité un peu trop spéculative, mais qu'est-ce que vous diriez peut-être de l'attitude des uns et des autres dans la crèche? Qu'est-ce qu'on peut dire sans trop s'avancer sur ce mystère qu'on contemple aujourd'hui et qui peut éclairer cette gratitude dont on parle?
Je crois qu'à travers l'expérience de la crèche, l'expérience de Bethléem, il y a eu, non pas une conversion radicale, mais il y a eu un changement de regard. Il n'y avait plus d'un côté les bergers et de l'autre côté, par exemple, Joseph et Marie. Il n'y avait que des frères et sœurs qui s'émerveillaient devant le don de Dieu. Il n'y avait pas les gens de Bethléem qui avaient refusé de faire une place à Joseph et Marie. Il n'y avait pas de l'autre côté des mages qui venaient de pays étrangers et qui ne partageaient pas forcément la foi juive. Il n'y avait que des hommes et des femmes qui étaient guidés par cette lumière, par cette nouvelle qualité de relation. Et c'était là, c'est cette qualité de relation qui faisait, j'allais dire, le berceau du don de Dieu, de ce Verbe fait chair, qui venait au milieu de nous. Saint Jean a dit dans son prologue, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Enfants de Dieu, ce n'est pas simplement être tout seul avec Dieu, c'est de se retrouver frères et sœurs avec tous ceux qui nous entourent et de créer ainsi le royaume, le nouveau monde, selon le cœur de Dieu.
Peut-être aussi avait-il une gratitude différente les uns des autres, non? Je ne sais pas, les mages, on les décrit souvent comme un peu la figure de l'intellectuel ou du scientifique ou du chercheur de Dieu qui tout d'un coup trouverait presque une réponse à ces énigmes. Les bergers, vous avez expliqué leur attitude, on a parlé de Joseph dans une précédente émission. Est-ce qu'on peut imaginer qu'ils avaient des gratitudes différentes ou est-ce que là c'est pousser le bouchon un peu trop loin à votre goût?
Non, je crois que c'est le mystère de toute personne, de son histoire. Ce que je vous disais, le merci fortifie notre identité. Eh bien, le merci des mages les a fortifiés dans leur identité. Le merci des bergers les a fortifiés dans leur identité. Le merci de Joseph, que nous n'avons pas sous forme de parole, mais qui va le fortifier. Rappelons-nous que le massacre des innocents ne va pas tarder et que Joseph va partir de nuit avec Marie et Jésus, ce n'est pas une rupture dans l'histoire de Joseph ni de Marie de Jésus. Son merci, cette action de Dieu qu'il a pressentie au cœur de sa vie, va lui permettre de dépasser l'épreuve qui l'attend dans cette fuite en Égypte.
Pour finir, comme pour la première partie, si vous aviez une petite astuce, vous avez pris l'exemple du pain pour nous aider à rentrer en ce jour dans ce mystère peut-être d'un grand merci, d'un immense merci. D'une grande gratitude, qu'est-ce que vous prendriez qu'est-ce que vous conseilleriez aux auditeurs comme petite astuce?
Vous savez, tous les jeudis, je vais dire la messe à l'hôpital psychiatrique de Lannemezan. Et au moment des intentions de prière universelle, il y a toujours un patient qui commence à dire merci pour les médecins et les infirmières. Et ça, je trouve que c'est très très beau, parce qu'on pourrait penser qu'il est limité, tout ça. Et lui commence à dire merci aux médecins et aux infirmières. Alors, bien, regardons notre histoire, regardons notre présent, regardons notre agenda, notre carnet d'adresses, regardons nos numéros de téléphone. Et puis, je suis sûr que dans la journée, on pourrait exprimer notre merci à quelqu'un qui nous a rendu un tout petit service, ou un voisin qui s'est manifesté, ou peut-être simplement d'évoquer dans notre cœur tous ceux qui nous ont quittés, qui ont quitté cette terre, mais qui nous ont tant donné.
On va faire une deuxième pause et on vous retrouve pour continuer à parler depuis Garaison de ce grand mystère qui nous est donné de contempler aujourd'hui, le mystère de Noël à la lumière des apparitions de Notre-Dame de Garaison.
Emmanuel Pella.
Une émission Vivante Église, donc en ce jour de Noël, depuis Notre-Dame de Garaison, où nous retrouvons donc pour cette dernière partie de cette dernière émission de cette série de l'Avent, le Père Pascal Garçon, donc Père de Sainte-Croix et recteur de ce sanctuaire à découvrir. En tout cas, il vous attend de pied ferme. Peut-être pas cette semaine, disait-il au début de cette émission, parce qu'ils ont attendu de récollection communautaire, mais en tout cas à partir du week-end prochain. Alors, il y a un dernier. Vous allez me dire rien de nouveau sous le soleil pour les croyants et les pratiquants, mais il est toujours bon peut-être de l'entendre à frais nouveaux. Vous vouliez revenir sur la fin de l'apparition et le miracle des pains, puisque anglaise, comment dire, quelque part ce miracle a entraîné l'adhésion des uns et des autres autour du pain. Évidemment, c'est la figure de Jésus, mais aussi c'est l'image de l'Eucharistie. Est-ce que vous pouvez nous rappeler peut-être, donc anglaise découvre un pain qui est un pain en fait de riche, alors qu'elle était pauvre, et chacun retournant dans sa maison retrouve le même pain. Et c'est évidemment, selon vous, une préfiguration de l'Eucharistie ou une image de l'Eucharistie.
Mais dans le fait que Marie nous invite à rendre grâce, et beaucoup savent qu'un des mots utilisés pour parler de la messe, c'est l'Eucharistie, qui vient du grec eucharistan, qui veut dire merci. Donc quand Marie invite les habitants à rendre grâce, à dire merci, elle peut les inviter indirectement à célébrer l'Eucharistie. Et l'Eucharistie, c'est quoi pour nos amis auditeurs? C'est le rappel que lors de son dernier repas, Jésus, alors qu'il se sait, et il sait qu'il va être livré par Judas, alors qu'il connaît presque même, puisqu'il l'a annoncé par 3 fois, qu'il allait être rejeté par l'ensemble des croyants de son époque, qu'il allait être maltraité, qu'il allait être battu, qu'il allait être fouetté, qu'il allait être crucifié, qu'il allait mourir, alors que tout autour de lui c'est des ténèbres, alors qu'il est de plus en plus seul, qu'est-ce que fait ce Jésus? Il prend du pain, il prend du vin et il rendit grâce. Il va littéralement dire merci à Dieu au moment où il va se sentir le plus abandonné de Dieu. Ça, c'est quelque chose de très profond dans la foi chrétienne. Au moment le plus dur, au moment le plus noir, le Christ rendit merci à son Père. Et Marie invite ainsi les chrétiens, les croyants, et c'est sans doute pour cela qu'elle veut qu'on construise ici une église, une chapelle. Elle veut qu'on y célèbre l'Eucharistie, c'est-à-dire elle veut qu'avec le Christ et par le Christ, nous puissions dire merci, Eucharistein, faire Eucharistie, dire merci à Dieu. Et souvent, quand on s'adresse à des gens qui ne vont pas très souvent à l'Église, ils pensent que la messe, l'Eucharistie, c'est une prière qui est adressée au Christ. Non, c'est une prière que l'on adresse au Père par le Christ pour dire merci au Père. Il rendit grâce, Jésus rend grâce, il rend grâce à qui? Au Père. Et il nous dit, pour nous associer à cette action de grâce, il nous dit, faites cela en mémoire de moi, comme Marie nous dit, à raison, n'oubliez pas de remercier Dieu pour ses bienfaits.
Est-ce que vous pouvez éclairer ce qui peut paraître comme une folie apparente, c'est-à-dire un homme, donc pour ceux qui ne croient pas ou qui ont du mal, un homme qui donc est en passe d'être livré, en plus donc il sait qu'on va le livrer, il y a même dans l'assemblée celui qui l'a trahi, et pour autant il dit merci. Comment tenir ce paradoxe en fait, qui peut nous aider à rentrer dedans?
Je crois que nous sommes limités, non pas intellectuellement, mais spirituellement, et nous ne comprenons pas tout ce que représente la personnalité du Christ, qui sait qui il est, qu'il est ce Fils bien-aimé du Père, et qu'il est venu sur terre, rappelez-vous la Trinité, l'icône de la Trinité de Roublev, le Saint Conseil, où justement pour sauver cette humanité qui ne sait plus dire merci, qui ne sait plus demander pardon, qui ne sait plus dire je t'aime, pour sauver cette humanité, eh bien le Christ, le Verbe, la deuxième personne de la Trinité, décide de se faire homme pour accomplir ce retour vers Dieu qui va passer par la croix. Mais Jésus, là, au moment où il est le plus abandonné, il sait que sa mission est accomplie et que son Père est avec lui pour accomplir cette mission d'alliance avec l'humanité. Et donc, profondément, au plus profond du cœur du Christ, il y a cette action de grâce. Vous savez, souvent, quand on reparle de Jésus sur la croix, on cite cette phrase « Eloi, Eloi, lama sabachthani » qu'on a gardée d'ailleurs de l'araméen de l'époque. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le psaume 21, une prière qui commence vraiment dans les ténèbres, un abandon total. Mais quand on prend toute cette prière, quand on veut s'unir à ce qu'était la pensée du Christ sur la croix, il ne peut pas réciter ce psaume à haute voix, il est en train de mourir d'asphyxie, il nous a donné la clé d'entrée. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Psaume 21. Et d'un seul coup dans ce psaume, il y a cette phrase « Tu m'as répondu, je rendrai grâce à ton nom ». Vous voyez, enfin je ne sais pas si vous voyez, mais à travers le passage de la nuit de Noël au jour de Noël, à travers les ténèbres et la lumière, il y a cet attachement profond du Fils à son Père et il ne peut que lui dire « Merci ». même si c'est au prix de son sang et au prix de sa vie.
Donc ça veut dire que le cœur du mystère de Noël, à vous entendre, c'est pas seulement un enfant qui naît dans la crèche, ça serait déjà la préfiguration de cet homme qui est à la fois homme et Dieu et qui vient quelque part quoi, remettre à l'endroit l'humanité dans son rapport à son père, et ça passe par
la plus grande faiblesse, ça passe par la plus grande dépendance, ce qui nous est difficile à nous d'accepter.
Et ça passe aussi par la plus grande acceptation, parce que permettez-moi d'insister une dernière fois, mais ce que le Christ va vivre après dans sa passion, il peut être difficile parfois d'y faire face, même quand on est croyant, ou d'imaginer qu'on puisse dire merci pour cela. Est-ce qu'une dernière fois, nous, en dehors de ce retour à Dieu, cette juste attitude quelque part qu'il vient restaurer, comment a-t-il pu
dans la liturgie
remercier pour cela
de cette nuit, de ce jour de Noël? Nous lisons un extrait de la lettre aux Hébreux, un écrit qui est très particulier parce que c'est le seul écrit du Nouveau Testament qui présente Jésus comme grand prêtre. Il est dit qu'au moment où le Fils de Dieu entre dans ce monde, en citant de nouveau un psaume, il dit cette phrase, et on va voir aussi la répercussion que cette phrase a dans le cœur de Marie. « Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu m'as fait un corps. Alors j'ai dit, me voici mon Dieu, je viens faire ta volonté. » Vous voyez, je ne peux pas répondre à l'inquiétude de nos auditeurs pour savoir comment tout cela se fait, mais les Écritures n'ont pas pu nous donner de réponse, mais elles nous donnent un éclairage, un chemin. Voici que le Christ, en venant sur terre, dit à son Père, « Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. » Saint Paul dira qu'il est l'amen de Dieu, qu'il est la réalisation des promesses de Dieu. Et quand Marie dit à l'ange, « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole », elle aussi, elle se fait disciple de son fils, elle se fait disciple de ce Jésus. Il y a cette même acceptation de la volonté du Père qui devient action de grâce, exultation.
Pour finir, vous vouliez insister sur le fait qu'à l'image de cette, de ce miracle des pains, l'Eucharistie construit l'Église et qu'il y a comme un aller-retour entre la construction communautaire et puis on va dire la maison. Là, en l'occurrence, c'est assez flagrant dans le miracle des pains, puisque c'est un miracle à la fois qui se fait en présence d'Anglaises et de d'autres. Et après, quand chacun rentre, il y a du pain chez eux, du pain blanc, et ils prennent tous ces pains pour à nouveau retrouver en communauté.
Et je crois que vous avez bien souligné les trois niveaux qui nous permettent de construire cette église que Marie a demandé ici à Garaison. D'abord, au niveau personnel, c'est Anglaise. Ensuite, au niveau familial. Et en ce temps de Noël, c'est très très beau de voir que Dieu ne se manifeste pas seulement ici à Garaison, dans cet emplacement, mais qu'il se manifeste aussi dans les maisons de ces pauvres gens. Ils n'ont pas allé chercher Dieu bien loin. Dieu vient se manifester dans leur maison. Et ensuite, tous ensemble, eh bien, c'est cette construction de l'Église à travers l'écoute de la parole de Dieu, à travers le pain que l'on rompt et à travers la conversion profonde que l'on peut vivre dans son cœur.
Et donc, vous invitez aussi à revisiter un peu ce que vous appelez une liturgie familiale. Est-ce que vous pouvez réexpliquer ça ?
Mais je crois que nous, dans la religion chrétienne, c'est peut-être en passe de changement avec les nouvelles générations, mais on a oublié qu'il y avait toute une liturgie qui se vit à la maison, qui se vit chez soi. On se plaint du manque de prêtres, mais on oublie que le père de famille, que la mère de famille, et aller voir chez nos amis juifs, les membres du peuple de la Première Alliance, beaucoup de choses se passent dans la maison. Et les Actes des Apôtres nous rappellent qu'il y avait à la fois leur présence au temple des disciples, mais ensuite il y avait cette liturgie à la maison, l'église, la petite église que représente le foyer, que représente la famille, eh bien c'est là que se vit l'accueil de la parole, le partage de la parole, le partage du pain, et puis aussi c'est là qu'on apprend à se pardonner et annoncer Jésus par le service et par le sourire.
Pour finir, vous vouliez nous parler du chapelet. Alors j'avoue que là je suis perdu parce que je me dis, on parle du mystère de Noël, on a parlé donc de ce miracle des pains, vous nous avez développé ce miracle et peut-être ces différents aspects, la présence de Jésus dans la crèche, l'importance de l'introduction à cette gratitude et ce consentement de Jésus qui restaure quelque chose dans l'humanité. Et puis, vous voulez finir par le chapelet. Alors pourquoi ?
Parce que...
Vous prêchez pour votre paroisse, c'est ça?
Je prêche pour ma paroisse et je prêche pour...
Plus profondément, quelle est l'intention?
J'ai été frappé par la lettre de Jean-Paul II sur le rosaire de la Vierge Marie, où il disait que la prière du chapelet, dès qu'on y met du cœur, dès qu'on y met de l'intériorité, dès qu'on y met de la contemplation, c'est notre manière à nous de contempler le visage du Christ. Et le premier jour où Marie et Joseph ont pu contempler le visage du Christ, ce que Saint Jean dira, hein, ce que nos yeux ont vu, ce que nos oreilles ont entendu, ce que nos mains ont palpé du Verbe de la de vie, car la vie s'est manifestée, nous vous l'annonçons pour que votre joie soit complète, c'est à Noël. Et en priant Marie, en priant, en reprenant ce chapelet, cette prière familiale, personnelle, communautaire, eh bien, l'Église nous invite à contempler le visage du Christ. Et plus nous allons contempler le visage du Christ dans notre prière, plus bien sûr nous allons le contempler dans nos frères et sœurs souffrants, plus nous allons comprendre quelle est notre mission et notre exultation sous l'action de l'Esprit-Saint grâce à la prière avec Marie et par Marie.
Et vous voulez insister aussi parce que à l'image de Garaison, ça vous semble être le chemin, vous teniez à préciser ça, le chemin apostolique est parfois un chemin caché. Alors là, la boucle est bouclée, puisqu'on est venu à Garaison parce que ça ressemblait à Nazareth, en tout cas, voilà, un petit village. Alors Bethléem, semble-t-il, était un peu plus gros, mais toujours est-il que ça ne devait pas être Jérusalem ou Toulouse. Pourquoi revenir à l'importance de cette dimension cachée qui peut faire écho à ce qu'on avait abordé dans les précédentes émissions, l'importance du désert, du silence?
Eh bien, le désert chrétien, ce n'est pas le lieu où l'on demeure. On passe, on fait une expérience, on va faire une récollection, une retraite, comme on l'on dit dans notre langage chrétien. On ne reste pas à Garaison, on passe et on repart. Et pour moi, ce qui est beau, c'est qu'on pourrait dire que nous deux qui sommes réunis dans ce studio, eh bien, nous formons un petit peu l'image de l'Église. Il y a ceux qui sont chargés d'annoncer la parole et de l'annoncer avec tous les moyens modernes et avec tout ce qui fait que la parole est entendue. Et puis, et donc c'est l'œuvre des apôtres, c'est l'œuvre de ceux qui sont envoyés deux par deux pour annoncer Jésus-Christ. Et puis, il y a aussi Marie, Marie qui a été reçue par Saint Jean, Marie qui demeure à la maison, Marie qui n'est pas sur l'expectative, mais qui ne cesse de prier, qui ne cesse, elle, de contempler le visage du Christ pour que ceux qui l'annoncent puissent sentir cette communion dans la sainteté, cette communion des saints. Donc, être apôtre aujourd'hui, on peut l'être en annonçant la parole de Dieu, on peut l'être aussi en accueillant la parole de Dieu, mais dans les deux cas, il s'agit de faire fructifier la parole de Dieu.
Eh ben, merci beaucoup, Père Pascal Garçon, de nous avoir accueillis pour cette série de l'Avent. Vraiment un grand merci. Je pense que nos auditeurs auront apprécié. Et donc, j'imagine que vous leur donnez rendez-vous ici, non?
C'est... Avec beaucoup de
joie. Quel est le meilleur moment pour être accueilli?
Au printemps, à partir du printemps, là, on fera tout. Mais tous les week-ends, nous sommes ouverts. Et puis, tous les week-ends, nous prions l'après-midi à 16h, le chapelet. Venez quand vous voulez, on sera très très heureux de vous accueillir.
Voilà, Sanctuaire Notre-Dame de Garaison, un lieu à découvrir, je vous le rappelle une dernière fois, parce que ça ne se sait pas et c'est étonnant. Décidément, il y a pas mal de lieux d'apparition dans notre belle région. Premier lieu d'apparition donc de la Vierge, en tout cas parmi les lieux reconnus en France, 1515, et j'imagine que vous avez retenu le nom de la bergère, puisque je l'ai cité à de nombreuses reprises, sinon il faut venir ici. Merci beaucoup.
Merci,
cette émission
Emmanuel.
Était réalisée par Christophe Aubry, vous pouvez la réécouter ce soir à 21h, ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous souhaite un joyeux Noël, et je vous dis à demain.